Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Supermarket. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
You t'as dit apéro.
Allez lui. Allez mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau magazine L'Instant Sport, c'est exactement le 15e, votre émission d'actualité sportive qui décrypte les résultats sportifs lozériens, nationaux et internationaux. Nos trois chroniqueurs spécialistes du sport lozérien et internationaux sont bien présents. Laurent, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Alors Laurent, ce rendez-vous galant de la semaine dernière s'est bien passé ?
Oui, très bien. Alors je tiens à préciser que c'était un rendez-vous professionnel, ce n'était nullement un casting pour le futsal féminin. Merci Ludo de me mettre dans l'embarras.
Voilà, on salue Angélique qui nous écoute et il faut pas croire tout ce qu'on dit, hein, parce qu'on dit beaucoup de bêtises, surtout nos chroniqueurs qui sont autour de cette table. Et je pense en particulier à quelqu'un, parce que je suis allé au carnaval, figurez-vous, pour essayer de voir Laurent déguisé en pirate pour pouvoir poster la photo sur les réseaux sociaux. Et en fait, je suis tombé... Non, par contre, j'ai croisé Patrick qui a littéralement dévalisé le stand de cookies. Salut Patrick.
C'est vrai, excellent, on s'est régalé. Bon, le temps était de la partie, donc bon carnaval et super cookies. Bonjour à toutes et à tous.
Et du coup, l'association des parents d'élèves de je ne sais quelle école vont pouvoir, grâce à Patrick, payer un voyage aux Caraïbes aux enfants de l'école.
Voilà, ou l'Australie, ils hésitent.
Voilà, on sait pas.
À part peut-être ça, même les deux.
Et peut-être même les deux. Salut Luc.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Je reviens à toi dans deux secondes. Je voulais parler à Patrick juste rapidement, parce qu'on va y revenir après, de cette belle journée de Ligue 1. Les journées qui se suivent et se ressemblent, des fêtes de l'OM et de Lyon, nul du PSG, de Monaco et de Saint-Etienne. Et il y a que Montpellier qui gagne.
Oui, j'espère enfin trouver le sommeil cette nuit, parce que depuis vendredi soir, c'est vrai que c'est compliqué. Trois nuits d'affilée, très dur à encaisser, surtout quand tu vois les résultats des autres. Marseille pourrait être largement en tête s'ils avaient fait ce qu'il fallait.
Ouais. 10 points d'avance même.
Voilà, ou peut-être 20 même. Mais bon, c'est ça le foot. Luc, je ne sais pas si tu as vu en NBA, mais James Harden, hier avec Houston, a fait une Luc Crespon à LeBron James.
Non, j'ai pas encore mis de coup de pied à mes adversaires.
Voilà, à la pas lutte encore. Pour un ballon. Un ballon, il a mis un coup de pied dans les roubignoles de LeBron James, le King James qu'on appelle la Queen James.
Il paraît qu'il s'est fait mal au pied, justement.
Il s'est fait mal au pied.
Enfin, il y a quand même une grosse différence entre Harden et Luc, c'est que Harden, il marque quand même beaucoup de points.
Oui, ouais. Il est meneur, moi je suis intérieur. C'est vrai. Il est barbu.
Ouais. Et il est en NBA.
Et puis un petit conseil à Patrick, si tu veux dormir, regarde les matchs d'équipe de France de rugby.
Voilà, on va en reparler.
C'est ce que
aussi.
J'ai fait donc, entre vendredi et samedi, c'est vrai. Ça n'a pas arrangé les choses, c'est vrai.
Allez, mais du rugby justement, à l'actualité sportive lozérienne, le RCML qui a laissé passer sa dernière chance avec cette défaite contre l'avant-dernier Rive d'Orbe. Un match à domicile perdu 12 à 8 pour le RCML, un essai, une pénalité. Pour Rive d'Orbe, 4 pénalités. Alors on parle une nouvelle fois de l'indiscipline récurrente des Mandois. Luc ?
L'indiscipline qui leur coûte très cher chaque week-end. Là, c'est encore des cartons blancs, je crois. oui, effectivement, mais c'est pas anodin non plus. Hein. Quand t'as une équipe qui est dominée, elle fait des fautes, et quand tu as une équipe qui est physiquement un peu à court, comme c'est parfois le cas pour le RCML, parce que on le répète, hein, ils ont pas un effectif pléthorique et les joueurs sont pas surhumains, tu fais des fautes et qui sont sanctionnés, et généralement quand ça tourne pas, dans des conditions pareilles, t'es rarement les arbitres avec toi, donc du coup ça se cumule.
Surtout Patrick, finalement ils ont pris un carton blanc, mais les autres en ont pris deux. Les Mandois étaient en supériorité quand même numérique pendant 20 minutes. Il y a eu un problème aussi de pénalité.
C'est dommage, parce que on parle plus de maintien. Voilà, on a compris depuis plusieurs semaines que la dernière place est acquise, malheureusement pour le RCML. bon, voilà, tu recevais l'avant-dernier à domicile, c'était l'occasion de remporter ton troisième match, bon, surtout que ta dernière victoire remonte au début de la saison, donc tu restes sur une série de plus de 10 matchs sans victoire, donc c'était quand même intéressant de réenclencher ce goût de la victoire. Alors quand tu perds de 4 points aujourd'hui, bon, mais déjà ça te fout les boules, en plus quand tu marques le seul essai et que l'équipe adverse ça marque pas et que tu perds quand même, bon, tu as encore plus les boules. Et donc voilà, et y avait un auditeur qui me disait là, parce que j'en ai croisé un là, en cours de semaine, et donc il nous écoute bien sûr quand on parle de rugby, et il me disait que ces histoires de carton blanc et d'indiscipline, c'est qu'après tu manques de lucidité. Parce que donc tu fais des efforts, tu tiens 20, 30, 40, 50, ouais, 60 minutes à fond, avec des joueurs bon qui sont blessés, donc qui s'entraînent pas beaucoup, ou qui ont bon, d'autres obligations, et donc tu te retrouves parfois même pas 10 à l'entraînement, et donc ces joueurs-là, après, il y a un manque de lucidité, et bien sur un nouveau ruck, ils plongent, et l'arbitre en a marre, ou l'arbitre est beaucoup plus vigilant contre les mandois, et ça te fait un carton contre toi, et le match ouais, bascule sur des trucs comme ça.
Ouais, c'est ce que je disais, c'est pas que foncièrement les mandois sont plus indignes, disciplinés que les autres et connaissent pas les règles. C'est juste qu'au bout d'un moment, à force de tirer sur des effectifs qui sont ric-rac, on perd en lucidité, on perd en là-dessus, et on perd en discipline aussi. On se fait sanctionner souvent bêtement en plus sur un plongeon bizarrement l'arbitre va voir alors qu'il a peut-être pas vu les trois précédents.
Ah, c'est vrai qu'au rugby tu peux arbitrer de n'importe quel sens. Voilà, il y a un amoncellement de joueurs, tu peux s'y faire dans une bonne majorité des cas, tu peux s'y faire des deux côtés sans problème, sans que l'arbitre ait forcément tort. Après bon, voilà, ça se joue beaucoup sur l'interprétation. C'est ça aussi la spécificité de ce jeu.
Après pour revenir à ce que tu disais sur les buteurs, faut savoir que c'est probablement le poste clé aujourd'hui, le poste clé du rugby, et qu'un buteur, ça se pondait. Et moi à l'époque où j'étais pas buteur.
Et t'es chanteur.
Quand j'étais chanteur, non, quand j'étais à l'Est, et il y avait le club qui montait en Fédéral 3 et qui avait justement pas de buteur, et on leur en proposait, qui demandait donc à l'époque c'était l'équivalent de 2000-2500 euros. Pour jouer en Fédéral 3. Alors on leur demandait, soit vous nous trouvez un boulot à 2500 euros, soit nous filez 2500 euros. Je sais que le président Chabert m'a expliqué un jour qu'on lui avait proposé un Argentin qui demandait un fixe ou un boulot et deux allers-retours par an en Argentine. Voilà, inutile de dire qu'il a été très vite remis à sa place.
Non, mais il faut pas oublier que le buteur titulaire, justement, au début où tu as gagné tes deux matchs, il s'est blessé de suite après, je crois, sur le deuxième match, d'ailleurs, la dernière victoire, ou le match d'après, et donc, c'est compliqué. Bon, un buteur aussi, il faut s'entraîner quasiment tous les jours. Hein, même moi, j'en connais en fédéral. Bon, je suis né à côté de Château-Renard a longtemps joué en fédéral 1, maintenant ils sont en fédéral 2. Bon, on m'expliquait que les buteurs, ils s'entraînent tous les jours, même à ce niveau-là. Donc, même en fédéral 3, bon honneur, il y en a qui doivent buter 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine. Donc, c'est toute une mécanique. Et bon, c'est vrai que quand tu es un buteur, ça change la vie.
Ça change beaucoup de choses. Ouais.
Toi qui as un pied droit magique et une carrière de rugbyman, Laurent, tu as jamais pensé?
Non, jamais.
À sa reconversion. J'ai vu sur.
Peut-être tu joues plus avec lui, Jérôme Morin,
oui,
qui était buteur du RCML et qui jouait aussi à la FL.
Très bien au foot. Très
à ce niveau-là, il y a souvent des footballeurs qui deviennent, footballeur, quand ils partent au rugby, qui deviennent. J'ai vu que l'essai, c'était sur une longue passe de Chabert. On parle de Mathias qui est revenu.
Et oui, ça fait plusieurs matchs qu'il est titulaire. Le guerrier, l'ancêtre, il y en a qui même le disent l'immortel. Et bon, c'est vrai qu'il avait arrêté parce que bon, l'âge venant, et c'était tout à fait logique. Mmh. Et puis voilà, il a été quand même obligé de reprendre parce que bon, il faut encadrer ces jeunes, et puis il manque d'effectifs. Donc il a repris, et il a repris à fond. Hein, il joue tous les matchs,
il
est titulaire.
Il avait déjà fait des piges l'année dernière, 2-3 piges sur quelques matchs l'année dernière.
Et là, c'est vrai qu'avec le nombre important de blessés, oui.
Il n'y a pas le choix.
Alors au classement, Mende 15 points dernier, Rive d'Orbe donc qui a gagné ce match est 8e avec 30 points, Bédarieux 7e 32, on s'arrête là. Sigean est en tête avec 40 points, Plage d'Orbe second 39 points. Voilà, on va voir ce qui va se passer pour les Mandois. Bon,
il reste deux matchs.
Il reste deux matchs, c'est fini.
C'est fini. De prendre du plaisir au moins.
Voilà,
au minimum.
Savoir si comme l'an dernier ils vont rester, ils vont être repêchés. Est-ce qu'ils vont vouloir y rester? Bon, ça sera la question. On va essayer d'avoir le.
Est-ce que
t'es
obligé d'accepter un repêchage?
Non, t'es pas obligé. Je pense que je pense d'abord que tu postules pour un repêchage. Je sais pas comment ça marche.
Tu postules d'abord.
Ouais.
Il va falloir.
Je sais que nous pour le basket, par exemple, on avait
le président du
rugby. Nous pour le basket, on avait signalé à la commission que s'il y avait un désistement, on était intéressé pour monter. Ce qui s'est passé d'ailleurs 2 jours avant le début du championnat, il y a eu un désistement et on nous a proposé la montée. Après, libre à nous de l'accepter ou de la retenir.
Mais il y a même des rumeurs les plus folles qui courent dans la ville où on parle même d'un arrêt du club.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Voilà,
aussi.
Donc bon, c'est vrai qu'on entend vraiment tout sur l'avenir du rugby. Amende, donc plus généralement Lozère, parce que bon, même s'il y a d'autres clubs, c'est plus pour les jeunes et plus dans le loisir. Le club de compétition du département, c'est bien sûr le RCMN. S'il venait à disparaître, ça serait catastrophique par manque d'effectifs. Et voilà,
c'est un peu
de lassitude et la difficulté de recruter.
Ouais, après, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on parle beaucoup des seniors et de leurs difficultés. Faut quand même pas oublier tout le boulot qui est fait. Chez les jeunes, chez les gamins et à l'entente Lozère, chez les cadets juniors, il y a quand même toute une structure derrière. Certes, l'équipe première et ses résultats, c'est un peu la vitrine, c'est généralement la vitrine. Ça marche pas très bien, mais faut pas oublier tout ce qu'il y a derrière et tout le travail de tous les bénévoles du club, de tous les éducateurs qui font quand même que ça reste quand même un club important dans la ville.
Bien sûr, on va suivre avec attention. Volleyball élite masculin, première journée de play-down, victoire indispensable de Mende et victoire de Mende 3-7 à 2 face à Caudry. Alors Patrick, tu étais au match, alors ils n'ont pris que 2 points et non 3, mais bon, l'essentiel était quand même bien là de commencer ces play-down avec une victoire.
On récapitule la situation, Mende attaque ses play-down en 6e position, c'est-à-dire en position de relégable. Donc il y a une pression énorme sur les épaules des Mandois, surtout après cette fin de première phase assez catastrophique, puisqu'il suffisait de gagner un match sur les 2 derniers, et donc tu perds chez toi à domicile, chez toi contre Mérignac, et après tu t'inclines à Grenoble, donc ce qui fait que tu bascules en play-down, et donc là c'était la première journée contre Caudry qui avait 3 points de plus que toi, donc t'imagines toute bien sûr l'importance de cette confrontation. Et donc aussi la frustration à la fin de ce match, quand tu sais que voilà, il suffisait de gagner 3-0 ou 3-1 pour marquer ces 3 points et donc revenir à hauteur de Caudry. Alors que là, tu gagnais 3-2, mais Caudry
aurait pris qu'un point.
Donc Caudry aurait pris 0 point.
Aurait pris 0.
Donc là, en gagnant 3-2, Caudry a pris 1 point et toi, tu as pris 2 points. Donc tu as toujours 2 points de retard sur Caudry, au lieu de revenir à égalité. Ça, tu te rends compte toute la différence de la situation.
Par contre, je crois que ça les mettait pas, ça les laissait quand même dans la partie basse, hein, dans les trois, ça leur permettait pas de revenir dans les places.
Tu revenais à égalité avec Caudry, donc après, il aurait fallu regarder, au cet avorage. Enfin, bon, voilà, tu étais au moins à égalité que Caudry, à cette fameuse 6e passe, donc en fait 5e.
Je vais faire un point sur le classement pour nos auditeurs. Voilà. Premier Grenoble, 15 points. Deuxième Charenton, 15 points. Troisième Caudry, et j'ai oublié de marquer le nombre de points.
12.
Le Puc, 4e, 12 points. 5e Mérignac, 12 points. Donc 6e, premier relégable, Mende avec 10 points, seulement 2 points de retard sur le 3e, 4e et 5e. 7e Brive, 8 points. Et Villefranche, qui a 0 points, qui est dernier.
Ouais, alors Laurent, pour compléter ce que a dit Patrick, puisque Laurent qui était j'étais au match, aussi ouais. au match, ça qui fait d'autant plus râler, c'est qu'au quatrième set, Mende menait 19-14, je crois que c'est ça Patrick.
Même 19-15.
Et qui finalement s'incline 25-22.
Ouais.
Alors ça fait râler quand même.
Ouais, c'est hallucinant.
Ça aurait pu faire un 3-1 finalement et prendre tous ces points-là. Une baisse de régime. À ce moment-là, qui fait que tu perds 2 points finalement.
Non, mais la caractéristique de cette équipe, depuis le début de la saison, il faut le reconnaître, c'est elle est complètement instable et très inconstante dans la durée d'un match. C'est-à-dire qu'on a vu un premier set totalement maîtrisé, même si les deux équipes étaient à 20-20, donc rien n'était fait. Mais franchement, même à 20-20, tu savais. Voilà, je disais au public qui était à côté de moi, parce que c'est vrai qu'il y a une ambiance conviviale, on discute. Et bon, voilà, j'étais persuadé qu'on allait le gagner sur cette. Tu sentais que tu es vraiment au-dessus. Et d'ailleurs, bon, voilà, tu as gagné 25-22 sans vraiment souffrir. Et puis après, au deuxième set, mais on dirait que c'est plus la même équipe. Il y a une baisse de régime. Alors, je sais pas si c'est mental, si c'est physique. Mais c'est quand même hallucinant. Et tu laisses complètement échapper ce deuxième set. Mais il y a vraiment, tu ressembles, ça ressemble pas, quoi. Enfin, par rapport aux actions superbes que tu avais au premier set, tu vois après des réceptions qui partent de tous les côtés, tu vois les attaquants qui ont mis des parpaings qui mettent des attaques fortes. Bon, c'est incompréhensible.
Voilà, un peu de nonchalance aussi de quelques joueurs. Bon,
c'est vrai.
J'ai pu constater, ouais, quand on compare avec l'équipe adverse, tu nous avais dit la semaine dernière, c'est une équipe composée essentiellement de joueurs de Pologne.
Ouais.
Il y en avait quelques-uns, ils avaient la rage, la hargne, ils avaient les dents qui frottaient le parquet, quoi. Et chez nous, bon, quelques-uns étaient,
hein. Ça va l'abîmer, le parquet.
Ah ouais, c'est la communauté commune.
Non, c'était pour tracer les lignes pour le futsal.
Mais c'est vrai qu'il y a une différence de comportement. Bon, le résultat final a fait que Manda a gagné. Mais au cinquième set, Luc est en train de décéder, là.
On va lui servir, servir un peu de rouge.
Et au cinquième set, victoire finalement 15-13, donc c'est vraiment, ça se joue à un poil au cinquième set.
Ouais, mais alors paradoxalement, ça veut dire qu'ils ont aussi eu les ressources mentales pour aller le chercher
Je vais t'expliquer la ressource mentale qu'ils ont eue. C'est que, en fait, l'arbitre a accordé un point plus que litigieux à l'équipe adverse. Alors, le public s'est levé, surtout Patrick, il était fou de rage.
Non, c'est vrai, j'étais hors de moi.
Tu étais plus calme que moi.
En fait, t'étais au bar.
Non, j'ai pas vu. Et en fait, du coup, ça a eu don d'énerver nos joueurs qui ont enfilé, je sais pas.
Ouais, 3 ou 4
points d'affilée, que ça a permis de prendre une avance.
Les sentiments d'injustice.
Non, il y a eu une erreur monumentale d'arbitrage dans ce cinquième set où, il y a une attaque d'un joueur de Mende et donc il y a un défenseur, un réceptionneur de Caudry qui se baisse, mais vraiment, presque à quatre pattes pour justement laisser passer le ballon pour qu'il puisse sortir hors des limites du terrain. Mais il se baisse pas assez et donc le ballon lui touche mais nettement le dos. Donc il y a point pour Mende, tout le monde le voit, tout le monde l'a vu. Et donc sauf les deux arbitres. Et donc bon, il y a une bronca énorme et ça permettait à Caudry de passer devant 4-3. Donc dans un tie break quand tu mets un 4-3, bon, tu peux revenir, mais fait quand même c'est pas anodin. Et donc suite à ça, j'étais vraiment inquiet parce que j'ai dit bon, Mende va prendre un coup derrière la tête et ça va les démoraliser, ils vont laisser filer le match. Et bon, au contraire, ça les a remobilisés et ils ont fait sur le coup 4 points d'affilée, ça a permis à Mende de passer 7-4 et après bon, oui, bon, il y a eu 14-11, et donc après Caudry a sauvé deux balles de match, et bon, enfin, après un point aussi monumental où il y a eu 3 ou 4 défenses, bon, ça a permis à Mende de conclure ce match 15-13, mais c'est vrai que ce tie-break aurait pu quand même tourner dans l'autre sens, il faut le reconnaître.
Suite à ça, Patrick a appelé les flics, il a dit, il y a un problème à Pioncourt, là, on a des Polonais qui nous volent.
Ouais. Alors, tu parlais de ça, mais j'ai annoncé la semaine dernière un entraîneur polonais volcanique, et bon, Laurent est là, et bon, ouais, c'est vrai alors, que, vas-y, raconte, alors, c'est hallucinant.
Cet entraîneur très particulier a le don d'inverser les sentiments qu'on peut avoir dans les tribunes. C'est-à-dire que quand ils ont marqué un point fabuleux, ben lui, il est devenu rouge, il transpirait, il était moite, il était pas bien et il s'est mis à hurler sur ses joueurs. Alors, personne n'a compris pourquoi, les joueurs ont baissé la tête. Mais voilà, c'est son style particulier d'être souvent en colère. Quoi. Alors il demande des temps morts.
Voilà. Le Polonais est souvent en colère. Hein.
Ouais. Mais alors là, il demande des temps morts pour quand ça se passe pas super. Bon, ça arrive. Mais il dit pas un mot. En fait, il laisse ses joueurs et il se tire. Et il marche un peu comme un El Loco à Marseille. Il met les mains dans le dos et il a pas de glacière, mais il tourne en rond. Ouais,
c'est bien, c'est le même résultat, il perd 3-2.
Ouais, c'est pareil. Bien joué, Luc. On remarque, c'est intéressant, c'est un spectacle.
Ah voilà. Oui, franchement, c'est rare de voir une coach comme ça, parce que même des fois, il hurle sur ses joueurs, alors qu'il n'y a même pas de temps mort, mais le point même de se jouer. Mais bon, le public se tait parce qu'on entend ce gars hurler, et après, une fois qu'il a fini, le public fait ouh. Bon, ça arrive pas, je peux vous dire que ça arrive pas tous les week-ends de voir un spectacle comme ça sur le banc de touche.
Il leur parlait en français ou
en
polonais?
Non, je peux te dire qu'au temps mort, les rares fois où il a parlé, c'était toujours en polonais. Et d'ailleurs, je pense que dans l'équipe de base, il y avait un seul français dans le 6 majeur.
Peut-être qu'on comprend pas le polonais, peut-être c'était des trucs super sympas qu'il disait à ses joueurs.
Mais quand tu vois sa tête.
C'était pas mis au nourrice, je te garantis.
Alors, Laurent, chaque semaine, Patrick nous dit allez voir les matchs de volley, c'est un véritable show, c'est quelque chose à voir. Toi qui n'es pas habitué à y aller, ton ressenti sur ce match, sur le spectacle en lui-même?
Non, sur le spectacle en lui-même, c'est sympa parce que bon, c'est toujours vivant. Il se passe toujours quelque chose d'un côté ou de l'autre. Bon, c'est vrai que des fois, on aurait bien aimé que l'équipe de Mende prenne un peu plus plus d'avance, joue un peu plus physique, un peu plus de mordant, un peu moins de nonchalance. Mais sinon, l'ambiance était là. Il y a des tambours, des trompettes, des gens qui hurlent. Non, c'est sympa, quoi.
Non, mais il faut
quand
dire aussi.
Quand il y a victoire à la fin, en plus, bon, c'est d'autant mieux, quoi.
Il faut dire aussi que le MVL, bon, a quand même pas de chance parce que, bon, Olivier Fabre, qui est le central, quand même, titulaire et indiscutable depuis le début de la saison, puisqu'il a été recruté à Rouen à l'intersaison. Bon, il jouait en Ligue B. On avait suivi, il s'était cassé ouais. Le doigt, il a repris trop tôt. Donc, ça s'est cassé au même niveau. Donc, il a rechuté. Et donc, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir. C'est un gros handicap. Mmh. Et puis, il y a eu quand même, lors de ce match amical, tu as parlé la semaine dernière à Pigouzon, la blessure d'Anthony Velay qui pétait la forme. Et bon, il s'est fait une entorse à la cheville. Et bon, il était sur la feuille de match, mais il était incapable de rentrer. Il a pas disputé un seul point.
Alors, on parlait qu'il y avait un petit jeune, là, 16 ans. Mmh. Il n'y était pas.
Si, mais bon, c'est compliqué de le faire rentrer parce que, bon, le volley, c'est un sport à maturité très lente. Et donc, jouer à 16 ans en équipe 1 dans un match de play-down, c'est compliqué. Donc, il y était. C'est Sarus, le petit... Sarus, je crois que c'est Mathieu, son prénom. Et voilà, c'est compliqué de le faire rentrer dans des matchs importantissimes comme ça.
C'est vrai que là, pour le coup, si le MVL avait pu disputer les playoffs, ça aurait pu donner aussi du temps de jeu à tous ces joueurs-là, qui en ont un peu moins, à tous les jeunes, puisque bon, finalement, ils avaient pas grand chose à perdre, puisque le maintien était assuré. Par contre, il faudra assurer le prochain match.
Voilà, j'allais y venir. Le PUC qui est quatrième avec 12 points, toi t'as 10 points, tu joues chez eux la semaine samedi prochain, donc ouais, un match encore, enfin de toute façon tous les matchs sont importants.
Oui,
là,
oui.
Non, mais on voit cette inconstance d'ailleurs, l'entraîneur est obligé de changer de joueur, quoi. En fin de deuxième set, il fait sortir son passeur, bon, il fait sortir aussi Mario Tepper, le croate, qui est un super joueur, qui a fait de super matchs, mais il faut le reconnaître aussi, samedi, il est passé complètement à travers. Bon, il est obligé de le faire sortir. Bon, voilà, c'est compliqué à gérer aussi pour un coach de voir ses joueurs osciller le bon et le moins bon.
Je crois que le volley, c'est quand même un sport qui est aussi, il y a une grosse place à la psychologie et je pense que c'est aussi très compliqué à gérer, la concentration, les joueurs, faire rentrer, sortir. Je pense que c'est assez compliqué.
Tu perds le deuxième set, donc tu peux croire que tu es touché, que ça va être l'effondrement. Et puis dans le troisième set, tu mènes 20-10. Donc 20-10, c'est-à-dire tu mets une tôle à cette équipe de conneries. Donc tu gagnes le troisième set hyper facilement. Et malgré cela, donc tu sors d'un deuxième set catastrophique, le troisième set était super. Et malgré cela, le quatrième set, tu retombes dans tes travers, alors que tu mènes 19-15, que tu as le match en main, et tu perds quand même ce quatrième set. C'est un peu désorientant, quoi.
Ouais, Laurent.
Ouais, alors du coup, de mon œil externe, je pense qu'on peut citer deux joueurs. Tu me diras, Patrick.
C'est vrai, il t'a impressionné, et à juste titre, tu as raison, tu vas le citer, je pense.
C'est Kadour, j'ai bien aimé, et Bakam. Après, bon, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Qui ont été réguliers et présents tout le match, quoi.
Voilà, donc Loïc Bakam, tu le parles, c'est le deuxième passeur, donc il rentre, après il est ressorti, Georges Carrier est re-rentré, bon, il y a une turnover, d'un côté c'est bien, mais c'est vrai qu'au volet, si tu parles vraiment à un spécialiste, c'est hyper rare de faire ressortir ton passeur en cours de match, quoi. Voilà, donc, bon, c'est une spécificité un peu mandoise et, bon, c'est bien, mais c'est quand même aussi, ça pose aussi des questions.
Allez, on le rappelle, samedi prochain, match à Paris face à la réserve du PUC volley. Un match important, noter la défaite 3-0 de l'équipe de pré-national face au leader, l'ASBAM.
Et le prochain match à domicile sera contre Villefranche.
Villefranche qui est dernier.
0 points, donc là, il faudra gagner 3-0 ou 3-1.
Ouais. Obligatoire.
Bon, parce que si tu as vu, bon, Brive, il paraît que Brive a recruté pendant justement cette intersaison entre les deux phases. Et donc Brive qui veut s'en sortir vraiment, et donc ça va être hyper chaud, hyper serré.
On a des nouvelles de Mérignac.
Mérignac a joué son match, a perdu 3-2. Bon, voilà, je pense qu'il va finir la saison. D'après les infos, l'Omnisport a annoncé aux dirigeants du volley qui finançaient tous les déplacements de cette deuxième phase et qui payaient tous les arbitres de cette deuxième phase. Donc à ce niveau-là, en principe, ils ne devraient pas faire un forfait. Après, par contre, ils ont arrêté de rémunérer tous les joueurs et tous les entraîneurs et même les éducateurs des équipes de jeunes. Parce que... Donc après, quid de certains joueurs? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà partis? Est-ce qu'il y en a qui vont partir? Non. Est-ce qu'ils vont tous rester?
Non, s'ils ont perdu que 3-2, ah. C'est qu'il y a...
Ils jouent le jeu.
Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de la saison, on peut se retrouver avec une équipe de Mérignac qui pour l'instant est devant Mende, mais qui peut être rétrogradée. Voilà. Et ce qui peut permettre...
Ils envisagent toutes les solutions, c'est-à-dire sortir de l'omnisport et faire un club de volley à part, ou alors faire une fusion avec Saint-Jean-d'Illac qui jouait aussi en 1, mais eux qui sont qualifiés pour les playoffs, qui est juste aussi un banlieue de Bordeaux, voilà. Ou alors carrément disparaître toutes les...
Mais ça peut libérer une place de relégable à la fin de saison.
Ah, il faut gagner sur le terrain.
Il faut gagner sur le terrain.
On verra après. On en a parlé la semaine dernière, la finale féminine du challenge régional futsal se tenait ce dimanche à Mende, et c'est la Fac Carcassonne que l'on porte devant l'US Montagnac. Voilà, on en a parlé, donc on donne les résultats, c'est normal. En football toujours, quart de finale de coupe, c'est Garloser la coupe.
Oui, ouais,
d'accord. Dans le derby, Marvejols s'impose face à l'AFL, 3 buts à 1 après prolongation. But pour Marvejols, Endur Papé 48e sur penalty, Diallo 100e donc après prolongation, Alès 120e contre un but d'Adani pour l'AFL à la 35e. Alors je me suis pas rendu au match, mais j'ai lu le résumé sur le quotidien Midi Libre. Donc apparemment sur la première mi-temps, il y a rien à dire, grosse domination de Marvejols. Et au final, c'est l'AFL qui arrive à la mi-temps avec un but à zéro, un but d'Adani, Luc.
Ouais, juste pour info, visiblement, donc l'AFL s'est déplacé à 13 joueurs, dont deux qui étaient amoindris par des blessures. Donc du coup, ils ont fait...
Avec Cédric Bonal, le coach, qui a joué titulaire aussi.
Ouais, parce que l'AFL avait joué le mercredi d'avant en coupe
Lozère
contre Florac, je crois.
Contre l'AFL, ils ont
gagné 1-0.
1-0, donc l'AFL est qualifié pour les quarts de finale contre Châteauneuf.
Avec un but de Jean-Louis Morgan.
Voilà. Morgan Jean-Louis.
Apparemment, sur le match, il n'y a rien à dire. 3-1 pour Marvejols, ça paraît logique.
Oui, apparemment, ça paraît plutôt
logique. On s'attendait à un match serré, évidemment, puisqu'il y a juste une division d'écart puisque c'est l'équipe réserve qui a été obligée de jouer ce match de Coupe Garloser. Donc, entre une équipe de DHR à l'extérieur, mal classée, plutôt mal classée en championnat, et une équipe de Marvejols bien classée en PHA, donc c'était sûr que c'était un match qui allait être serré. Et je pense que l'AFL n'est pas parti la fleur au fusil là-bas. Mais une défaite, c'est rageant, surtout quand on arrive en quart de finale, on n'est pas loin du dernier carré, de faire quelque chose. C'est une compétition qu'on a gagnée il n'y a pas très longtemps.
C'est rageant pour l'AFL et voilà, ça n'est pas pour Marvejols qui fait un bon parcours. Bon,
et bravo à Marvejols, de toute façon. On continuera à les encourager pour le match suivant. Quoi.
Juste une petite question, ça va te mettre totalement à l'aise, Laurent, en plus. Vous jouiez pas, la 3, ce week-end?
Match remis.
Non, match remis, puisqu'on devait jouer à Châteauneuf avec les conditions météo ne permettaient pas.
Mais vous le saviez depuis quand?
Depuis jeudi.
Mais visiblement l'équipe réserve de l'AFL est partie à 13
avec
un effectif un peu ric-rac.
C'est pas idiot ce que tu dis.
Est-ce que vous auriez pas pu venir un peu compléter?
C'est pas idiot ce que tu dis. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Coupe Lozère mercredi à la STT, puisqu'il y a un joueur de l'équipe 3 qui est allé au moins compléter l'équipe, qui a joué d'ailleurs. Et pourquoi ça n'a pas été fait ce week-end, je n'en sais rien du tout.
Voilà, ça on ne sait pas. Ouais. Patrick, il a ses
infos. Il y a aussi des U19 qui auraient pu peut-être venir
à Les U19 jouaient contre Lunel. Hein.
Les U19 jouaient, mais bon, tu peux faire une promotion à un joueur qu'il aille goûter un petit peu un niveau supérieur, oui, c'est pas plus mal aussi.
C'était pas un gros déplacement en plus.
Mais c'est une bonne question, Luc, mais j'ai pas la réponse.
On va demander à Patrick, il a peut-être...
Non mais c'est symptomatique quand même de la situation de cette réserve de l'AFL depuis quelques semaines qui inquiète vraiment, et donc au niveau des résultats, et maintenant c'est au niveau de la motivation et de la mobilisation de certains joueurs. Bon voilà, il y a un effectif complètement hallucinant entre la 1 et la 2. Donc voilà, tu te déplaces en plus à Marvejols.
Ouais,
alors si tu te déplaces au fin fond
ça aurait été du Gard à Pont-Saint-Esprit, on voilà, peut comprendre.
Bon, ok, tu peux l'imaginer, mais là il suffit d'aller à Marvejols un samedi soir à 17h. Bon, c'est encore plus incompréhensible. Bon, on sait qu'Alexandre Moreno a démissionné, Cédric Bonal se retrouve tout seul. c'est compliqué. Il y a des joueurs qui ont mis la clé sous la porte. Moi, on m'a cité déjà des joueurs qui étaient sûrs de partir à l'intersaison prochaine. On m'a même annoncé un joueur qui il y a quelques années jouait en équipe première, qui aurait déjà donné son accord pour rejoindre Badarou. Bon voilà, donc tout ça et bon, c'est pas des trucs de comptoir, c'est des gens quand même qui sont un peu au courant, qui connaissent les personnes. Donc quand même avec des infos fiables, voire relativement fiables. Donc voilà, quand tu entends tout ça, alors que tu es en pleine saison, que tu as un maintien à assurer, que tu as des parcours en coupe à te qualifier, et que tu entends des trucs comme ça, c'est quand même voilà, c'est révélateur d'un certain malaise qui a lieu en ce moment dans cette équipe réserve.
Allez, l'équipe réserve, l'équipe 1.
Pour revenir à Marvejols, voilà, bon, moi, je connais très bien aussi Gérard Cafaro, qui est un dirigeant de Marvejols, qui suit l'équipe 1, qui est là sur le banc de touche à tous les matchs. Bon, Marvejols était surexcité, bon, pour eux, c'était, voilà, bon, alors moi, je le chambrais, j'ai dit, tu vas tomber contre Mende. Il me dit, non, mais il faut qu'on tombe contre Mende en demi ou en finale. Bon, voilà, bon, et petit, là, j'étais bon dans ce pronostic, j'aurais dû le faire à l'antenne, comme ça, ça m'aurait marqué un point. Mais bon, ils étaient vraiment motivés. Pour eux, c'est super de recevoir Mende chez eux sur leur terrain, en plus ils se qualifient. Donc voilà, chapeau à eux et j'espère qu'ils vont confirmer le championnat.
Allez, on va parler de l'équipe 1 de l'AFL avec un match en retard et l'AFL qui se déplaçait à Perpignan. Victoire impérative pour recoller aux premières places ou du moins une défaite interdite. Et au final, l'équipe revient avec un match nul, 0 partout. Alors c'est un match entre une équipe qui lutte pour ne pas descendre Perpignan et une autre qui a un calendrier très favorable qui arrive, fait de 7 réceptions pour 3 déplacements. Que penser de ce résultat, Luc ?
Est-ce que l'AFL n'a pas laissé passer le coche ? Voilà, moi c'est la question. Enfin, voilà, même si c'est jamais facile, hein, on l'avait dit, hein, Perpignan-Bavernay, même s'ils ne sont pas très bien classés, ils avaient bien résisté contre Pollard la semaine d'avant. Mmh.
Apparemment un match soporifique, deux belles actions pour l'AFL, Diédou qui trouve le poteau à la 55e et un tir à ras de terre de Gourmand à la 87e et apparemment rien d'autre.
Je crois que Stéphane Sauré était d'ailleurs très déçu du résultat.
Ouais, ben c'est bon, mais là il faut pas se leurrer, on est quand même à 11 points de Paulin. Poulain qui a gagné aussi, ouais. 1-0, je crois.
1-0 à Poussin.
À Poussin, où on va ce week-end, je crois.
Yes. Voilà, c'est match en retard.
Donc, 11 points d'écart avec...
Non, c'est pas un match en retard. C'est contre Aigues-Mortes le match en retard.
D'accord. Ouais.
Certes, un match à moins de Poulain. Bon, ça fait, allez, si on rêve qu'on gagne ce match,
à 7 points.
Ça fait 7 points.
C'est ce que tu nous dis.
7 points, c'est énorme.
Et même si tu as toujours ces 7 points quand Poulain vient jouer et que tu gagnes Poulain, tu auras toujours 4 points de retard.
Je suis d'accord avec toi, Luc, sur le fait que j'ai l'impression que le train de la CFA2 est sur le point.
Alors,
de
partir. J'ai croisé ce matin
du côté de Paulin,
un supporter, voilà, vraiment assidu de cette équipe de l'AFL. Il m'a dit c'est mort, moi j'y crois plus, c'est fini. Bon, donc si même dans les rangs des supporters il y a une certaine morosité qui gagne suite à cette victoire de Paulin et ce match nul de Mende à Perpignan. Moi, je dirais, bon, voilà, tu es troisième. Bon, c'est vrai que Paulin fait un peu le trou. Ben voilà, maintenant, tu as cette série de matchs à domicile, on verra. Mais c'est vrai que tu as encore cramé un joker, un de plus depuis le début de la saison. Et c'est vrai que ça sent un peu le roussi pour cette montée. Bon, moi, j'y crois quand même encore un petit peu.
Moi, j'y crois aussi. Voilà. Ouais. Allez, j'y crois aussi parce que, bon, j'y crois si on gagne ce match en retard. Mais si tu gagnes le match en retard, quand même, plus 4 points, t'es à 47. Il faut que tu joues encore contre Poland.
Ouais, il revient.
Tu les reçois le 29 mars.
Tu les reçois, donc tu peux leur prendre aussi 4 points. Ouais, ça peut aller vite. Et ce calendrier, quand même, tu reçois 7 fois, tu vas 3 fois à l'extérieur. Donc je suis d'accord, il fallait gagner. Mais surtout, il fallait pas perdre, quoi. Parce que ce point, peut-être qu'il comptera à la fin de la saison.
Pour pas avoir de regrets, de toute façon, il faut jouer tout à fond, c'est évident. Puis finir le plus haut possible, c'est quand même un beau challenge dans un club. C'est une bonne dynamique, il faut pas baisser les bras, mais il faut quand même pas non plus ça serait miraculeux de rattraper Paulin, qui à ce stade de la compétition a zéro défaite.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Mais alors ils ont 15 victoires et qu'un à zéro, il faut qu'ils arrêtent.
Oui, mais je te rappelle que Montpellier quand ils ont été champions, ils ont été champions. Et l'équipe qui avait fait le plus de zéro. Non, mais il faut parler. Il faut aussi parler du fait que Paulin a toujours pas perdu et que
à la différence de but, Montpellier était un négatif l'année où ils ont été champions de France.
C'est ça. Non, mais il faut quand même aussi signaler que Paulin est une équipe qui tourne très très bien et pour l'instant personne n'a trouvé la solution pour les battre.
C'est vrai que le 29 mars
ils prennent pas beaucoup de buts.
Il faut espérer qu'ils aient perdu avant, ça serait bon pour moi.
Parce que
Poussant 13e sur 14 avant dernier, 23 points et Paulin il gagne 1-0
contre. Alors ils sont dans le dur Paulin, ils sont dans le dur mais ils gagnent.
Sur Poussant, tu as quand même une anecdote à raconter, c'est que le week-end dernier, il y a eu match arrêté contre la Grande Motte. Mais le match a été arrêté parce qu'ils ont inversé les équipes. C'est-à-dire qu'ils ont mis les gars de la 1 en équipe 2, et ils ont mis les gars de la 2 en équipe 1. Alors les gars de la 2 qui se sont retrouvés en DH contre la Grande Motte, au bout d'un moment, ils en ont eu plein les chaussettes. Donc ils ont dit, on est blessés. Et donc ça s'est terminé à 7 joueurs.
En fait, ils étaient 8. Ils sont déplacés à 8.
Qui c'est qui a fait ça?
Poussant s'est déplacé à 8 et ils ont le gardien qui a dit hop, je me suis blessé. Donc le gardien est sorti.
C'est ce fait aussi Uzès. L'équipe de CFA2 qui joue en DH, mais ils
ne gagnent pas le match.
Non, ça dépend. Et pourtant, ils ont une sacrée équipe.
Donc Paulin a gagné 1-0 contre 8 mecs de Poussant. Aussi bien c'était à 8 encore, on le sait pas.
Non, parce que là, la réserve ne jouait pas. Donc je pense qu'ils ont mis l'équipe normale. Mais bon, c'est vrai que bon, leur coup a réussi, puisque l'équipe réserve ce jour-là, et le jour de la Grande Motte, a gagné contre une équipe qui était leader. Donc voilà, ils avaient quand même réussi leur coup à ce niveau-là.
Allez, en un mot sur les U19, Honneur qui gagne contre Lunel 4-3 et qui s'échappe encore un peu plus de la zone rouge et qui sont 8e avec 33 points. Handball, est-ce qu'on a des résultats?
Attends, pour revenir sur le match des U19. Donc ils menaient 3-0 tranquillement, puis ils se font rattraper 3-3 et puis 90e je crois penalty transformé par Lucas Esco. Donc c'est
le fils de son père.
Le fils de son père, voilà. Et donc si vous voulez voir ces buts, il y a une jolie vidéo sur le site de l'AFL faite par Coco Boyer, journaliste beIN Sport, qui est là tous les week-ends.
Rappelle-nous le site de l'AFL.
C'est
AFL 48.
AFL 48, c'est un truc un peu compliqué. Là,
ok, ouais. Allez, super. Handball.
Handball. Donc il y avait que les. Bon, il y avait les. Ouais,
j'ai fait une boulette avant. Je te coupe, mais j'ai fait une boulette la semaine dernière. Oui. J'ai annoncé le match de hand, mais c'était l'équipe réserve. C'était pas la une ne jouait pas, la une joue ce samedi. Voilà. Là, je confirme, c'est vraiment ce samedi contre Cournon.
C'était l'équipe réserve qui jouait contre un club d'Aude, mais je n'ai pas eu le résultat. Par contre, j'ai eu le résultat du hand féminin, donc les filles se déplaçaient.
Ah, dès que c'est les filles, tu les as, les résultats.
Ah, mais je les ai, oui. Ah.
C'était au MUC
contre le MUC 1.
Ah, intéressant ça.
Voilà, donc alors, les filles ont rejoué une scène de 50 nuances du MGC, c'est-à-dire que. Elles se sont fait fesser en fait. Elles ont pris cher à Montpellier. Donc Marie voulait pas que je donne le résultat, mais je donne juste l'écart de but. Voilà, il y a eu 20 buts d'écart. C'était une journée sans. Bon, ça peut arriver dans une saison. C'est arrivé contre a priori une équipe plus forte. Donc les filles doivent se rattraper ce week-end contre Narbonne. C'est dimanche à 16h.
À domicile. Allez, n'hésitez pas à les supporter. En parlant de hand, Luc, il y a une info intéressante qui est tombée cette semaine.
Oui, une info intéressante, c'est la victoire d'Ivry en Coupe de France contre Nîmes.
Et pourquoi?
L'USAM. Et pourquoi? Ben parce que c'est le coach adjoint d'Ivry qui était à la tête de cette équipe, puisque leur coach est suspendu pour 10 semaines. Et ce monsieur, c'est David Degouy, qui est l'ancien directeur du Centre Omnisport de Lozère. Et qui a donc réussi l'exploit de s'imposer avec cette équipe d'Ivry qui est leader de D2 et qui vise la montée contre une équipe de D1, donc Nîmes. Ils ont gagné 31-30 et se retrouvent en quart de finale de Coupe de France.
Et surtout arriver à la tête d'une équipe professionnelle. Voilà, bravo, exactement. Quoi, pour quelqu'un qui a fait du hand de sa passion.
Non, mais David, c'est quelqu'un quand même qui sort du lot à tous les niveaux par sa passion, son investissement. Bon, voilà, dès qu'il peut aider une équipe étrangère, il le fait. Dès qu'il peut passer dans une émission pour parler de hand, il le fait aussi. Il était sur LCI, tout ça.
Sur Europe, c'était le consultant officiel d'Europe
pendant la Coupe du Monde.
Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a su gravir les échelons. Voilà,
et qui surtout, oublie pas la Lozère non plus, même s'il est lozérien de cœur et d'adoption, il n'oublie jamais la Lozère. Et d'ailleurs, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de Lozériens qui avaient fait le déplacement dans les tribunes de Delaune pour voir le match. Il faut dire qu'il y avait le salon d'agriculture. Alors, il y avait des vaches, des choses comme des animaux.
Qui étaient les Lozériens étaient déjà à Paris.
Les Lozériens étaient déjà à Paris. Non, mais en plus, voilà. Et on va essayer de l'inviter. Alors, c'est pas évident parce qu'il est sur Paris.
On essaye, mais pour l'avoir un lundi midi...
C'est un peu compliqué.
Mais il est super.
Il est comme les Argentins, il demande un ticket aller-retour.
C'est ça. Alors, ah,
il est entraîneur.
Il est préparateur de l'équipe d'Argentine de hand aussi et de l'équipe féminine des USA. En plus de son boulot à Louis-Ivry.
Non, mais c'est quelqu'un qui a de l'ambition et de l'ambition saine. Il veut atteindre le top niveau de son sport. Bon, là, il est en train de le côtoyer avec ce poste d'adjoint, mais bon, voilà, j'en ai jamais parlé avec lui, mais bon, quand tu le vois faire, quand tu discutes avec lui, tu sens, ça transpire en lui. Il a vraiment l'ambition un jour d'être le coach titulaire d'une équipe de D1 et pourquoi pas après vraiment être sélectionneur d'une équipe nationale. Alors bon, l'équipe de France, ça va être compliqué, mais on sait jamais, mais au moins une sélection étrangère. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'imprégner dans son sport il a raison et en plus, il a toutes les capacités pour le faire.
Bah, d'autant qu'il est encore jeune, hein, il a pas 40 ans, c'est quand même pas mal être adjoint.
De là,
adjoint.
D'ailleurs, je crois qu'il a une bonne trentaine.
Putain. Ouais, il doit avoir 36 ou 37.
Ouais, et c'est un super gars.
Et en plus, c'est un super mec. Ouais.
Allez,
qui n'oublie jamais la Lozère et qui fait beaucoup aussi pour la Lozère tout autour de lui. C'est grâce à lui qu'il y a pas mal d'équipes qui sont venues faire de la préparation ici l'été, etc.
Allez, on fait une pause musicale avant de parler, pour commencer cette actualité nationale et internationale, de cette formidable journée de Ligue 1.
She's in a family full of
dire. Allez, c'est reparti. Comment dire quoi, Laurent? Tu parlais de
quoi? Il parlait de slip pour protéger les adducteurs.
Voilà, protéger les adducteurs des joueurs fragiles.
Ah,
qui remontent les glaouis, quoi, il faut le dire. Et qui font avoir une démarche un peu particulière quand tu joues au foot, mais a priori, ça marche pour certaines personnes.
Tu peux jouer au foot avec ça?
Oui, bien sûr. Bon. Ben, c'est fait pour. Hein.
Ok, très bien.
Voilà, j'ai appris quelque chose à Luc.
Ouais, qui s'en remet pas d'ailleurs.
Qui s'en remet pas.
Allez, autre chose, tu peux lui apprendre en parlant de foot, en parlant d'actualité, la Ligue 1 avec les résultats de ce week-end.
Ouais, alors ce week-end, la première surprise a eu lieu vendredi soir avec la victoire de Caen à Marseille, 3-2. Deuxième surprise le samedi, Lille qui bat Lyon 2-1. Ensuite, Lorient bat Bastia 2-0. Metz perd à domicile contre Evian 2-1. Bordeaux et Reims 1-1, Lens qui perd à domicile contre Rennes 1-0, Toulouse et Saint-Té match nul 1-1, Nantes bat Guingamp 1-0, Montpellier gagne contre Nice 2-1, et hier soir Monaco et PSG font match nul 0-0.
Alors au classement, Lyon premier 54 points, Paris 53, deuxième Marseille 50 points, Monaco qui a un match en retard contre Montpellier à 44 points, Saint-Étienne 43, Montpellier 42.
Qui a un match en retard contre Monaco.
Oui. Qui a un match en retard contre Monaco. Exactement, 0-0. Merci de suivre. En bas du classement, Lorient 16e 31 points, Toulouse 29 points 17e, Evian 29 points 18e, Lens et Metz 19 et 20e 22 points chacun. On va commencer par ces deux équipes, Metz et Lens qui perdent à domicile. Ça sent le roussi. Patrick, pour les deux équipes?
Lens, on connaît tous les problèmes extrasportifs qu'ils ont avec cet actionnaire de l'Azerbaïdjan qui met pas d'argent, qui était prévu. Il en a mis, c'est vrai, beaucoup, mais là, il faudrait qu'il en remette. Il n'en met pas.
Au moment où il faut en mettre le plus, il n'est plus
voilà,
là.
Ils n'ont pas de stade, ils jouent à Amiens. C'est compliqué pour eux, comme Boiré fait. Voilà, c'est bien beau de dire, ah, les gars, il faut se motiver, tout ça, mais ça marche un week-end, trois week-ends, puis après, à un moment donné, les gars, ils lâchent et c'est qu'ils sont en train de se produire.
Le gros problème de Lens, c'est qu'ils font des bons matchs, mais ils sont incapables de mettre un but. C'est dramatique. Ils ont une réussite devant le but qui est proche du néant, et pire que moi, quoi. Et pourtant, je sais que je suis mauvais. Hein.
Et donc, en fait, bon, c'est vrai que ça paraît mal engagé pour ces deux équipes, mais je vous rappelle qu'il y a quelques journées de ça, il y a 4 ou 5 journées, il y avait Caen avec eux qui avait encore moins de points que ces deux équipes et qui se retrouve quand même 12e maintenant.
Ouais, mais Caen, on l'a dit, c'est la meilleure équipe de 2015.
Oui, mais pourquoi. Ils ont fait un mercato intéressant. Quand,
pourquoi Lens ne serait pas la meilleure équipe du deuxième trimestre
parce
2015
qu'ils n'ont pas fait de mercato intéressant, ils peuvent pas.
Ah, le problème de Lens, c'est que
il y a eu une carasso en pleine course, c'est jamais vu. Hein. Un centre, il rate le ballon, le ballon tape sur sa tête, il rentre dans le but. Des contre son cas, j'en ai vu, mais et comme ça, c'est vrai que c'est hyper rare.
Le problème de Lens, c'est qu'ils sont, ils peuvent pas renforcer cette équipe qui est pas mauvaise. Elle prend pas des tôles à chaque match. Mais si tu recrutes pas au moins un mec qui peut marquer des buts, c'est leur gros problème.
Ce qui coûte le plus cher, c'est comme
c'est exactement comme au rugby, quoi. Mais là c'est dramatique. Enfin moi j'ai vu un peu les images du match. Ils ont des occasions là. Ils en ont des occasions.
Alors d'habitude, il n'y a qu'une équipe qui est remontée la saison d'avant qui redescend. À peu près, c'est toujours une équipe qui redescend et les deux qui se maintiennent. Cette année, on est bien parti pour que deux équipes redescendent. Voir peut-être plus, si c'était avec qui
Avec Caen. Caen est pas mal.
Ils ont 5 points d'avance.
Ils ont 5 points d'avance, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Hein.
Ça va vite, ouais. Ok.
Puis n'oublions pas non plus, en ce qui concerne Caen, c'est que je crois que c'est le 12 et 13 mars, la Ligue va se pencher sur la fameuse histoire de match supposé... supposé truqué, donc voir aussi si le club va pas être sanctionné sportivement à ce niveau-là.
Mais comme ça, l'OM pourra acheter tous leurs joueurs et avoir une vraie équipe. Allez, un mot sur le choc d'hier, Laurent.
Oui, alors du coup, un match...
Si tu l'as vu, je sais pas.
J'ai pas vu, j'ai vu que quelques extraits.
Tu m'as dit que tu l'avais vu.
Non, moi j'ai vu Montpellier.
Je parlais de Paris-Monaco. Patrick, un mot sur le match d'hier, sur ce choc.
Il y a eu un match intéressant avec Paris qui était vraiment supérieur à Monaco. Tu peux te demander comment Paris fait pour ne pas gagner un tel match avec quand même les occasions beaucoup plus nombreuses que Monaco. Voilà, bah. tu te rends compte que Lavezzi et Cavani sont vraiment hyper maladroits.
Je suis désolé, mais ce Cavani, je le vois pas bon.
Voilà, pour non, des joueurs de cette valeur, bon, voilà, recrutés à prix d'or, ils ont des actions quasiment, voilà, super, quasiment immanquables. Et puis ça, ou c'est le gardien, il tire sur le gardien, ou il tire à côté. Paris manque vraiment de, ben voilà, d'un top player, un Ronaldo, un Messi. Alors, bon,
Un Zlatan aurait suffi, je pense.
Ouais mais moi, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'ils sont bloqués par ce fair play financier, mais ah, quand même, si j'étais le Qatar, je me ferais plaisir. Je prendrais vraiment, voilà, un Van Persie, mais un type qui peut jouer le Ballon d'Or, quoi. Pas Cavani, c'est bon, mais c'est bon pour le championnat français. Ouais, après voilà, il faut vraiment un top player. J'attends ce top player vraiment. Pour
après, ils étaient sur Di Maria l'année dernière, ouais. C'est dommage.
Voilà, un truc comme ça, exactement.
Qui perce pas d'ailleurs.
Qui a pris un très bon tacle de la part de son entraîneur, Di Maria.
Oui.
Oui, qui a dit c'est très bien. Moi, j'attends un joueur qui sache dribbler, qui sache faire techniquement, qui soit très bon, mais il faut qu'il joue aussi avec son cerveau.
Ah oui, ouais, mais ça c'est fait. Après, on peut se poser la question de ce Zlatan qui monte ses tatouages. Bon, c'est pour une bonne cause, on est d'accord, mais
de toute façon, il aurait été suspendu quoi qu'il arrive, puisqu'il y avait eu, ouais. Il était suspendu pour
les c'est la commission. C'est la commission par rapport au tacle contre
la semaine sur un moment. Après, Cavani, quand tu prends Cavani, c'est vrai que c'est un super joueur qui a marqué.
Ouais, 25 buts en championnat d'Italie, bon, c'est pareil.
En championnat d'Italie, tu prends pas un tocard à la base. Bon, bah, tu te rends compte que finalement, pour marquer un but, il faut 12 occasions.
Il est maladroit quand même, pour un buteur.
Je sais pas si vous avez vu dans la presse, il est sorti qu'il voulait prendre Lewandowski. Ah, ouais, je comprends. Oui. Voilà, c'est des gars comme ça qu'il faut prendre Thomas Müller, Lewandowski.
Oui, mais là,
voilà, c'est vraiment quand même un niveau supérieur à Lavezzi. Bon, n'en parlons pas, mais même à Cavani, c'est autre chose.
Après, l'année dernière, ils avaient fait l'effort offensivement en achetant Cavani. Là, ils savaient qu'ils étaient bloqués par le fair play financier. Ils ont pris l'option de David Luiz, qui était peut-être pas la meilleure. Encore que hier, il a fait un super match. Il a fait deux super matchs
en milieu défensif. Il a fait une tête géniale. Voilà, une tête directe en bouche.
Il faut prendre un Götze, tu vois, des joueurs comme ça, qui sont vraiment d'ici. Götze, il a un Coupe du Monde, il fait un Coupe du Monde, il marque le but. C'est des mecs comme ça, dans les matchs importants, ils sont là. Après, tu joues contre Lorient, tout ça, au championnat d'Allemagne, tu joues contre Fribourg, Augsbourg, Paderborn. Ben voilà, ils mettent 5, 6, 7 à 0. Ouais. N'importe qui peut marquer. Mais après, quand tu joues contre Leverkusen, Schalke 04, Wolfsburg, ben, c'est là où les mecs, ils arrivent et ils mettent les buts importants, quoi.
Après, faut aussi rendre hommage à Monaco, qui a joué à la Monégasque. Ouais. C'est un peu une purge.
Ah, mais tu veux, voilà.
Mais c'est solide, ça, avec Subasic derrière.
C'est un bon début de match.
Je vais expliquer pourquoi Bielsa va entrer dans les mémoires et voilà, sera jamais oublié à Marseille et pourquoi Jardim, dans 20 ans,
écoutez bien,
personne ne se souviendra que Jardim a entraîné Monaco. C'est que Bielsa, il y a des matchs, franchement, c'est un régal. Si t'es pas supporter Massi, ben, tu vois, quand Marseille, t'es pas supporter de Caen, t'es pas supporter de Marseille. Tu regardes ce match, tu sais pas quoi faire un vendredi soir, tu regardes ça. Mais tu te régales. C'est impressionnant. Parce que chaque action, Marseille est en danger, tu as des 3 contre 2, des 5 contre 3, des 5 contre 4. Pareil, contre Caen, tu aurais pu marquer 5, 6, 7 buts contre Caen. Il peut y avoir 5-5, 6-5, 4-5. Voilà, c'est fabuleux. Alors que la même personne qui est pas supporter de Monaco et qui est pas supporter de Paris, eh ben, dimanche soir, ben, je crois qu'au bout de peut-être la mi-temps, la 60e.
Moi, j'ai arrêté à la mi-temps.
Capital. Voilà. Même toi, tu le dis. Voilà. Donc, c'est pour ça que Bielsa va marquer l'histoire. Et je comprends pourquoi les supporters, malgré les mauvais résultats, ils gardent cet amour pour cet entraîneur. Parce que, au moins, on se souviendra. Mais dans 20 ans, on se souviendra que contre Caen, on menait 2-0 et qu'on a quand même perdu 3-2. Wow. Parce que, voilà, on a continué à attaquer, on fait n'importe quoi. Mais au moins, on a des gros matchs. Et bon, je dis bravo Bielsa et merci Bielsa.
Sur une chronique de Monaco-Paris, il arrive à parler de Bielsa et de Marseille. Il est bon.
Hein.
Paris qui va peut-être récupérer Ayou gratuitement, ce sera très bien ça.
Alors là, c'est impossible, mon cher Ludo. Si son père Abedi permet, c'est pas possible, je peux pas l'envisager. Il faut qu'il aille n'importe où, mais pas à Paris. Même si j'étais Paris, quand même gratuitement en plus. Bon, je me gênerai pas.
Ça vaut le coup. Allez, un mot sur la Ligue des Champions. Un mot sur la Ligue des Champions la semaine dernière. Juventus de Turin 2, Dortmund 1, Manchester City 1, Barcelone 2. Arsenal 1, Monaco 3, Bayer Leverkusen 1, Atlético Madrid 0. Alors les copains, on a été une nouvelle fois minables dans les pronostics de la semaine dernière. On s'est planté sur toute la ligne. Il n'y a que Patrick pour Arsenal-Monaco qui avait prédit un 0-0, donc il s'est trompé. Mais des arrêts tout au long de la partie du portier de Monaco, Subasic, et un gros ratage, des gros ratages de Giroud. Donc on n'était pas loin.
C'est-à-dire qu'en même temps, Subasic, il a pas vraiment fait d'arrêt. Les attaquants de,
les
attaquants d'Arsenal ont tellement été mauvais, ont tellement tiré à côté. Je revois cette action, c'est Giroud qui tire. Le but est quasiment vide, il arrive à tirer 5
mètres à débarrer.
Ah, 5 mètres.
Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus de défenseur, il tire dessus.
C'est quand même incroyable cette équipe de Monaco. Hein. Qui aurait prédit ça, hein?
Ah, personne. Personne. Non, c'est impressionnant. Je ne peux pas le prédire. En plus, ce troisième but, alors que tu viens de prendre le but, tu es déjà dans les arrêts de jeu, tu prends ce but, et les arrêts de jeu se poursuivent, puisque l'arbitre te donne 4 minutes. Et voilà, à 93e et 30 secondes, tu fais encore un nouveau contre et tu marques ce troisième but. Bon, chapeau Monaco, c'est vrai qu'on avait un super match, mais. Et voilà, c'est un jeu quand même particulier de Monaco.
Ouais,
après, on aime ou on n'aime pas. Bon,
on a vu,
c'est particulier,
on a...
mais en fait, en Coupe d'Europe, c'est ce qu'il fallait faire contre Arsenal. Il n'y a rien à dire. C'était normal qu'il fasse tout tactique.
C'est un super match parce qu'il y a un 3-1, parce qu'il y a de... mais parce que bon, après, techniquement et dans l'animation offensive, c'était quand même pas le top. Et là où on va revenir sur le débat que tu as lancé tout à l'heure, c'est à pour moi, la différence, c'est que Jardim, techniquement, c'est un génie. Il arrive en début de saison en disant ouais, on va jouer l'attaque, c'est génial et tout. Il se rend compte qu'il peut pas parce que son équipe elle a pas les moyens.
Elle est naze, c'est surtout.
Il revient, tout le monde en défense, on bloque, on ferme. Là, il se retrouve contre Arsenal avec une équipe avec la moitié de ses titulaires sur le flanc. Il dit bon, allez, on va faire venir des jeunes, on va bloquer, on va fermer derrière.
Il y a des bons jeunes.
Non mais d'accord.
Alors que Bielsa, finalement, ça fait deux, trois week-ends. Il dit oui, c'est ma faute, j'ai fait une erreur. Ouais. Bah ouais, ça fait 3-0 d'affilée.
Je comprends ce que tu veux dire.
Mais je suis d'accord avec toi.
Mais j'aime ce romantisme de Bielsa. Il sait qu'il a une défense, pourrie. Mais alors, mais vraiment, quand tu vois, cette défense complètement dramatique, en particulier dans l'axe.
Ah, mais après,
c'est complètement hallucinant. Eux aussi sont d'ailleurs en fin de contrat, Fanny et Morel. Et j'espère qu'ils vont signer à Paris Saint-Germain. À Montpellier, si tu les veux, Ludo, on te les donne en plus gratuit.
Non, on les prend, les libéraux marseillais.
Ah, t'es dur, tu peux y aller. T'es dur avec Fanny quand même.
Non, mais attends, il faut arrêter complètement.
On arrête de parler de l'OM.
Et malgré ça, ce romantisme de Bielsa qui continue à les mettre et qui continue à dire à ses joueurs, vous attaquez, et donc il continue à mettre ses défenseurs en difficulté.
C'est pas du romantisme,
c'est du romantisme. De jeu et tu meurs avec ces idées.
On parlait de
matérialiste.
On parlait de 50 nuances degrés. C'est du masochisme à ce niveau-là.
Le deuxième but de Caen, c'est. Il faudrait le faire voir dans toutes les écoles de football. Tu as les deux défenseurs, c'est-à-dire Fanny et Morel. Ils sont au marquage de Salah. Ils ont un seul attaquant. Ils sont tous les deux à 50 cm de Salah. Il voit un joueur de Caen qui transperce les lignes. Au lieu de rester vraiment bloqué contre le joueur, parce qu'il veut dire à qui peut le donner, il peut donner qu'à lui. Et non, ils s'écartent tous les deux.
Et puis, c'est la politesse.
Donc ils disent au milieu, regarde, on a laissé l'espace, tu peux lui donner le ballon. Alors bien sûr, l'autre lui donne le ballon. Et en plus, Salah qui fait.
C'est un grand buteur, en plus.
Non, mais Salah.
C'est un ballon d'or,
en plus. Salah, il fait 20 secondes au 100 mètres. 20 ou 25 secondes au 100 mètres. Et même malgré ça, alors ils ont laissé tellement d'espace qu'ils n'avaient même pas à revenir à la course. Et Morel se fait prendre de vitesse par un mec comme Salah, qui n'a jamais été un sprinter. Et Salah a remarqué.
Qui n'a jamais été un buteur non plus, Salah.
C'est fabuleux.
Et c'est la première fois qu'il mettait une menace de foot. Non, mais il avait un caillou dans la chaussure.
C'est un gars d'école. C'est un cas d'école. Une défense centrale sur le deuxième but de Caen, ça a montré de partout. Et toujours, même dans 20 ans.
Il re-signe ou pas ?
Qui ?
Bielsa.
Il va partir vite, à mon avis. Il va se barrer.
Il peut pas re-signer, mais. J'espère que les supporters, quand même, iront le voir, là, ils mettront la pression, ils disent
Bielsa. Quand tu regardes l'OM, qui joue avec un seul milieu défensif, il n'y a aucune équipe en Europe qui joue avec ce système de jeu.
Non.
Le pauvre petit jeune là qui joue
Imboula,
et qui n'est pas milieu défensif à la base.
Il ne veut plus le ballon. À la 60e, il a les pieds carrés, il ne sait plus quoi faire.
Imboula, 7 millions, je ne suis pas sûr que ce soit un bon
recrutement. Au lieu de recruter le Monégasque au Campos, est-ce qu'il n'aurait pas fallu recruter un bon milieu de terrain
ou un vrai défenseur central?
Non, mais là, le seul truc de Bielsa que je suis contre lui, c'est le cas de Doria. Si Doria ne peut pas jouer à la place de Fanny ou de Morel,
ou
là, je n'ai vraiment plus rien compris au football. Si on verra la carrière que ce Doria fera, mais si Doria un jour arrive en équipe du Brésil et qu'il a pas pu jouer à la place de Morel ou de Fanny, bon, mais c'est la seule vraiment erreur,
la place de
erreur de Bielsa.
Thiago Silva.
Allez, j'ai la transition. Vu qu'on parle d'équipe toute pourrie, on va parler de rugby. Hop. Tournoi destination, les résultats de ce week-end, Irlande 19, Angleterre 9.
Non mais Ludo, je suis obligé de te couper.
Vas-y.
Non mais attends, tu as une demi d'ouverture qui joue à Clermont-Ferrand.
Alors,
qui
Morel.
Soit disant... Non.
Morel en demi d'ouverture.
Camille Lopez, il joue à Clermont. Soi disant, c'est un phénomène. Il est
on
super
l'a énervé,
depuis le début de la saison. Il est génial. il fait un match, mais contre le
Pays de Galles. Prévenez à Lozère Nouvelle qu'il va passer ça l'après-midi.
Mais c'est complètement affligeant le match qu'il fait. D'ailleurs, note sur l'équipe, 2 sur 10.
Oui, alors ce qui est d'autant plus affligeant, c'est qu'à la fin du match, Camille Lopez dit j'ai fait un super. Moi, je trouve que mon match a été bon.
Non, mais attends, tout à fait. Il est interviewé, il te dit sans problème ah non, mais j'ai pas été mal, tout ça, tout. Il a tout raté, il a raté ses coups de pied de pénalité, il a raté ses coups de pied de dégagement, il a raté ses passes, il a tout raté. Il a fait une seule passe en première mi-temps.
En avant.
Une seule passe pour un demi d'ouverture. Mais il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe. Mais Roger Coudert, heureusement qu'il est plus là, parce que s'il voyait des matchs comme ça, il ferait un infarctus.
Ok, ouais. Alors France 13, Pays de Galles 20. Au classement, on est 4e sur 6 avec 2 points, égalité avec l'Italie et cause 0. Alors Saint-André, Philippe Saint-André, l'entraîneur de l'équipe de France, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus quand, charge ses joueurs dans la presse.
Il faudrait qu'il se charge lui-même aussi.
Voilà, d'abord, se regarde. Après,
non, mais je pense que Saint-André, il le dit qu'il les a protégé, il les a couverts depuis le début et que là il en a plein. Moi j'ai vu un peu son interview et c'est vrai que pour une fois alors on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais là pour une fois il y avait du sentiment dans ce qu'il disait puisqu'il était limite d'avoir les larmes aux yeux.
C'était romantique.
Non, c'est pas romantique du tout. Mais c'est qu'au bout d'un moment, je pense que les joueurs l'ont lâché, au pire sont incompétents. Moi j'ai peur que d'une chose, c'est qu'on se rende compte que l'équipe de France joue là et en ce moment à son niveau et que
c'est peut-être ça aussi une bonne question, ce
top 14 qui est le meilleur championnat du monde n'est en fait le meilleur championnat du monde que parce qu'il y a les meilleurs joueurs étrangers du monde
et que
les joueurs français, c'est ce qui s'est passé avec l'Angleterre il y a quelques années,
hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait à 6 mois de la Coupe du Monde alors avec une équipe
entraîneur
en bois?
Non mais Maestri qui est deuxième ligne qui joue à Toulouse, bon, une question, il a dit clairement, il a dit arrêtez de parler du top 14, le top 14 on domine la Coupe d'Europe parce qu'on a les meilleurs étrangers et ça amène une énorme plus-value aux équipes. Donc il a été cash, il a dit ce que tout le monde pense tout bas depuis de nombreuses années.
Mais quand on va chercher des Spedding, des Cocottes, des Antonio, c'est aussi parce qu'on n'a pas les joueurs pour. Mais pourquoi? Parce que quand tu regardes les effectifs aujourd'hui, les trois quarts des titulaires, c'est des étrangers qui sont pas sélectionnables chez nous parce qu'ils sont titulaires dans leur équipe nationale. Comment tu veux que les jeunes français, l'Angleterre il y a une quinzaine d'années s'est retrouvée avec le même problème, c'est-à-dire avec une équipe nationale à la ramasse parce que son championnat avait plein de pognon et recruter tous les meilleurs joueurs du monde. Résultat des courses, la crise est passée par là. Les clubs anglais ont plus eu un radis pour payer les joueurs. Les joueurs sont venus en France. L'équipe d'Angleterre maintenant est au top. L'équipe de France est à la ramasse.
Au top, bof. Elle a pris cher contre l'Irlande.
Contre l'Irlande, qui est une super équipe. Moi, je suis désolé. L'équipe d'Angleterre, depuis des années, elle est toujours présente depuis quelques temps sur la scène internationale.
Patrick, sans évoquer l'OM.
Non, mais sans évoquer l'OM.
Ça va être
plus dur. Quoique, tu pourras établir un lien. Il faut revenir à ce qu'on faisait dans les années 80. Les petites pilules. Les pilules bleues. Il y a un bouquin là qui va être publié incessamment sous peu par l'ancien médecin de l'équipe de France. Voilà, donc qui décrit la façon.
Mais ça devait pas être les seuls à prendre des petites pilules seules nationales.
Et donc il explique. Il a 85 ans aujourd'hui. Il était à l'époque docteur. Docteur adjoint de l'équipe de France, et donc il explique avant un match resté dans les annales qui s'est joué à Nantes au stade de la Beaujoire contre les Néo-Zélandais dans les années 80, où la France a atomisé les Néo-Zélandais alors qu'une semaine avant les Néo-Zélandais avaient atomisé la France, et il explique que toute la semaine il y avait les petits cachets sur les assiettes, donc ça faisait partie du truc. Et d'ailleurs il y a un joueur néo-zélandais, immense joueur qui s'appelle Shelford, qui jouait troisième ligne centre, qui a fini ce match avec un testicule arraché. Donc ça a été d'une barbarie sans nom. Donc peut-être qu'il faut revenir à cette époque-là pour qu'enfin on renverse toutes ces équipes.
Non, mais
je le dis sous le ton de la plaisanterie.
Mais c'est pour donner l'info, c'est une info intéressante.
C'est une info intéressante. Il y a un livre quand même complètement hallucinant qui va sortir, quoi.
T'as des photos
lui, ça se souvient, par contre, le joueur, je peux dire que ça se souvient.
Non, mais
juste pour préciser,
c'est pas, le problème, c'est que c'est pas les pilules bleues qui t'empêchent de faire des en avant, quoi. C'est tout. C'est qu'au bout d'un moment, quand t'es pas foutu de faire trois phases de jeu sans perdre un ballon, la conquête, ça passe par là. Le rugby, ça commence par là. Ça commence par de la conquête en mêlée sur les rucks. Quand t'es pas foutu de faire trois mouvements d'affilée, pour lancer ton jeu, ton attaque, c'est impossible. Donc, tant que t'auras pas réussi à contourner ce problème, tu t'avanceras pas.
Allez, une info tennis en s'imposant en finale du tournoi de Buenos Aires face à Juan Monaco. 6-4, 6-1. Ce dimanche, Rafael Nadal a égalé le record de Guillermo Vilas avec 46 trophées sur terre battue. Donc voilà, il fallait le dire parce que c'est quand même un record.
C'est le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue.
On parle de pieds bleus aussi
On parle pas de pieds bleus, s'il vous plaît.
Non, mais.
Ça, on sait pas. On n'en sait rien.
C'est un débat. Il est contrôlé.
Il est contrôlé, ouais. Allez, en ski, une info, la France a conservé son titre mondial du sprint par équipe décroché à Val d'Ifiemme en 2013 avec l'ami Chapuis Lacroix. Ça, c'était en 2013. Là, c'était Jason l'ami Chapuis avec François Bro qui a su résister au retour de l'Allemagne deuxième et la Norvège troisième. Et l'ami Chapuis qui chute, qui réalise un finish d'anthologie, je ne sais pas si vous l'avez vu, un énorme sprint pour gagner. Et au final, à 28 ans, il annonce la fin de sa carrière.
C'était beau, un sprint magnifique là, contre cet Allemand qui revenait. Bon, moi j'ai dit, il est cuit, il va se faire bouffer par... En plus, il y avait des côtes vraiment hyper pentues. Il a su résister, il fait cette dernière ligne droite là face au public, c'était magnifique, les tribunes étaient pleines, c'était en Suède, bon, c'est la patrie des sports nordiques avec la Norvège. Donc super pour lui, 28 ans, il arrête, il voit qu'il est au bout du rouleau, il peut plus physiquement, il va devenir pilote de ligne, bonne chance à lui. Après lui, ouais. Je pense que ça va être dur. Hein. Bon, voilà.
Faut aussi signaler que ces athlètes-là, eux, ne vivent pas de leur sport et que il faut qu'ils aussi préparent leur vraie vie en dehors du sport et que à 28 ans il s'arrête pour justement comme le dit Patrick pour préparer aussi son après sportif.
Puis 11 ans, ça fait 11 ans qu'il est au plus haut niveau c'est quand même déjà
surtout ski de fond comme ça c'est difficile physiquement.
Puis je pense que ça demande beaucoup de temps de préparation, d'entraînement, etc.
C'est un sport de fou.
Non, mais il y aura d'autres jeunes qui vont pousser derrière. Parce que là, toute l'attention était sur lui, mais il doit certainement avoir des jeunes qui ne demandent qu'à ça à éclore.
Et je pense qu'on peut aussi signaler, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense que la fédération française une fédération française, mais le ski nordique, c'est pas la discipline qui revendique le plus d'adhérents en France. Et chaque année, elle réussit à avoir
quelques milliers. Combiné nordique, c'est confidentiel.
Combiné nordique ou biathlon, il y a quand même de super résultats.
Il faut avoir déjà des installations, donc c'est pas toutes les stations qui a.
C'est pas la baraque des Bouviers partout
en France. C'est pas l'Aubert.
Mais un ski de fond, il y a un Français qui a fini, Maurice Magnifica, qui a fini second. Voilà, c'est une performance complètement hallucinante quand tu sais ce que représente la France par rapport aux Norvégiens, aux Russes, aux Finlandais, aux Allemands, aux Suédois. Donc tu finis second dans un championnat du monde, surtout en Suède, mais je peux te dire que tu es costaud. Hein.
C'était une émission romantique aujourd'hui.
C'est vrai que très romantique.
D'ailleurs, on lance un appel. Si vous travaillez à la rédaction de la Lozère Nouvelle, partez. Patrick Biancone arrive. Il est chaud comme la braise. Partez vite.
Il y a deux mots à ne pas prononcer. Bielsa et Fanny.
Et Fanny, voire Morel. Morel, ça peut poser problème.
Non, Bielsa, oui, mais Fanny, Morel, non.
Allez, ciao les gars. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour une nouvelle émission sportive. Ciao.
Ciao, à bientôt.
Bye. Salut. Bye.
Les Free John au couloir en numéro 2, allez les filles, c'est parti pour les Free John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet, je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
Du tas d'apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.